Non, pas d'autres annonces?
Voilà, c'est un peu comme ça. Bon, comme on a fini notre série dans 1 Thessaloniciens, je n'ai pas encore non plus pris le temps de réfléchir à un livre qu'on pourrait continuer à faire. Peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on verra ça. J'ai envie de faire un psaume que j'ai lu durant la semaine. C'est le psaume 17. J'ai lu le psaume 17 cette semaine. Et donc je me suis penché un peu plus dessus pour voir si on pouvait travailler un petit message. Donc je vous invite à prendre le psaume 17. On va le lire entier, mais la partie qui nous intéressera surtout, on va prendre du temps dessus, ça sera du verset 1 à 6, mais pour comprendre un peu le contexte de cette prière de David, nous allons lire tout le psaume 17, qui est justement intitulé Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer un lionceau aux aguets dans son repaire. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image.
On voit dans ce psaume, hein, facile à comprendre, hein, c'est pas un psaume compliqué, un homme qui est confronté à un monde hostile. Et on voit David qui est sûrement en train d'être poursuivi par les hommes de Saül. Hein, et donc il est là sûrement dans un refuge en train de voir cette oppression, tous ses adversaires qui arrivent vers lui. Et là, David s'arrête et se met à prier, se met à implorer l'Éternel. Il implore le secours, il implore la délivrance de Dieu dans une situation qu'il ne maîtrise plus, où sa vie est en jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis confronté à un monde hostile en tant que chrétien? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis confronté à un monde hostile en tant que chrétien? Oui, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, j'implore le secours et la délivrance de l'Éternel? Oui. Je pense que tous, ça nous arrive souvent de crier à l'Éternel. Seigneur, j'en peux plus. Aide-moi. Regarde comme ils sont à mon égard. David, lorsqu'il écrit ce psaume, va souligner deux attitudes, je dirais, importantes pour demander de l'aide à Dieu face à l'adversité. Et les deux attitudes qu'il va avoir, c'est la droiture et l'intégrité. La droiture et l'intégrité. Et ce matin, il va falloir, je dirais presque, oser prendre un miroir et voir si ma vie, mon cœur, mes pensées sont droites et intègres par rapport à la parole de Dieu. Bien souvent, lorsque l'adversité arrive, nous baissons les bras, n'est-ce pas? Nous n'avons plus envie de faire des efforts pour le Seigneur. Nous nous laissons entraîner par les pensées de ce monde trompeur. Notre vie spirituelle perd de son intégrité. J'ai plus envie de faire d'efforts, je suis fatigué, Seigneur.
Et là, on rentre dans un cycle, je dirais, de chute spirituelle. L'intégrité et la droiture ne font plus partie de notre quotidien. Mais on ne s'en rend pas forcément compte. On baisse nos exigences spirituelles. Et on se permet des choses que quand on est en bonne forme spirituelle, on ne se permettrait jamais.
Et donc, nous avons plus ce désir de venir parler au Seigneur car notre cœur n'est plus intègre aux instructions de la parole de Dieu.
Vous connaissez, vous avez déjà entendu sûrement cette histoire, hein, que l'arme la plus utilisée par l'ennemi, bien sûr, c'est le découragement. C'est le découragement. Et l'ennemi a dû utiliser plusieurs fois le découragement avec David pour justement qu'il n'arrive pas à pouvoir être un homme intègre, un homme droit, un homme qui peut dire à un moment donné, on reviendra dessus, mais je t'invoque Seigneur, car tu m'exauces. Il était sûr que Dieu allait l'exaucer. Quelle confiance. On va revenir dessus après.
Donc David avait tout pour être découragé, mais David va continuer à vivre une vie qui honore le Seigneur. Et dès le premier verset, David expose son cœur à Dieu. Alors on revient sur ces premiers versets. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie.
Vous allez voir aussi durant ces six premiers versets, il y a deux choses qui reviennent par rapport, je dirais, à l'attrait physique de Dieu. C'est l'oreille et l'autre que vous voyez,
la vue. D'accord ? Les yeux. Vous verrez, on va voir ça. Donc, David commence avec ça. Seigneur, écoute. Prête ton oreille. Sois attentif à ton serviteur, à mes cris. Que ma justice, verset 2, paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Dans ces deux premiers versets, on a l'impression de voir David, un homme qui est devant dans un tribunal. On voit des expressions comme le terme droiture, n'est-ce pas ? Sans tromperie, le mot justice, mon intégrité. On a l'impression de voir David qui est là.
Écoutez, monsieur le juge, soyez attentif à ma requête. Prêtez l'oreille à mes arguments. Je suis en difficulté. Je suis face à des adversaires qui en veulent à ma vie. Pour remporter souvent un procès, en général, je dirais, vaut mieux être la personne la plus droite et la plus intègre.
Pour David, c'est important de se présenter devant le Seigneur avec un cœur droit et intègre. Parce qu'en face de lui, il a des ennemis qui sont tout l'inverse. Des ennemis qui sont tortueux. Des ennemis qui sont rebelles à Dieu.
Alors, plusieurs questions qu'on va pouvoir peut-être se poser ce matin. Que signifie la droiture et l'intégrité que nous voyons dès ces deux premiers versets? Est-ce que ma vie ce matin est intègre? Est-ce que ma vie est droite? Puis-je être constamment intègre et droit dans ma vie chrétienne? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je peux être continuellement intègre et droit dans ma vie chrétienne dans ce monde tortueux, dans ce monde où le péché règne? Est-ce que cela est possible?
Alors, on va commencer d'abord avec cette notion de qu'est-ce que l'intégrité, qu'est-ce que la droiture. Et vous savez, la définition, ce n'est pas Florent, ni un dictionnaire biblique qui va la donner. C'est la suite de ce même passage. Qu'est-ce que la droiture et qu'est-ce que l'intégrité? Alors, on va voir ça. La première chose, c'est que lorsque Dieu va sonder, visiter, éprouver mon cœur. Il est écrit, tu ne trouveras rien. Vous voyez avec moi verset 3? Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien.
Bon, c'est pas un robot, hein. On n'est pas en train de parler d'un robot, tu ne trouveras rien, ça y est, tu ne bouges plus. Non.
L'idée ici, c'est vraiment, tu ne trouves vraiment rien, Seigneur, de mauvais, rien qui va te déplaire.
Tu peux venir à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel moment de ma vie, tu ne trouveras rien qui va te déplaire. La barre est haute, hein?
Tu peux venir à n'importe quel moment de la journée, faire un scanner de ma vie, même lorsque les adversaires sont en train de me décourager et de me déstabiliser, tu ne trouveras rien de malhonnête dans ma vie.
Connaissez-vous un autre homme qui est comme ça dans la parole de Dieu, que Dieu a appelé comme ça? Allez, on y va. Job chapitre 1. On y va. On va lire le verset. C'est pas très loin des psaumes, hein. Donc, hein. Et vous pouvez garder un petit doigt au niveau du livre de Job, parce qu'on reviendra deux fois dessus, parce que Dieu va utiliser cette expression. Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Qu'est-ce qui implique d'être un homme droit et intègre? Mais la suite, il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà, on veut encore une définition de qu'est-ce qu'être intègre et droit? C'est craindre Dieu et se détourner du mal. On continue dans notre passage de Job, si vous voulez aussi. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme comment? Intègre et droit. Encore une fois, ce sont les mêmes mots que nous avons dans ce psaume 17 avec David. Continuons dans cette définition de l'intégrité. L'intégrité se voit par nos actes. L'intégrité et la droiture se voient par nos actes. Toujours dans notre passage. Donc, si tu sondes mon cœur, Seigneur, aujourd'hui, maintenant, si tu viens sonder mon cœur, si tu viens le visiter, même la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Pourquoi? Parce que ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Et là, on rentre dans le côté pratique de l'intégrité et de la droiture. Une personne qui te dit « Tu peux compter sur moi, je serai là !» et que tu ne la vois pas. L'intégrité de ses paroles est différente de ce qu'elle pense. On va aller un peu plus loin. Dire à une personne « Je t'aime !»« Je t'aime !»« Je prie pour toi !»« Prends courage, frère !»« Prends courage !»« Hein ? Comment vas-tu ?» Et d'autres paroles qui sont de bonnes paroles. Mais est-ce que je les pense vraiment? Est-ce que j'exerce ces paroles? Tout à l'heure, on va tous dire, comment vas-tu? Ah, je vais peut-être prier pour toi. Ah, il faut avoir du courage cette semaine. Oh frère, je t'aime. C'est bien ces paroles-là. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je pense? Est-ce que je suis vraiment intègre et droit dans ce que je suis en train de dire? Ou est-ce que c'est un langage que j'utilise d'apparence? Et donc, je ne suis plus intègre ni droit par rapport au Seigneur. Si on dit, je prie pour toi, est-ce que je m'engage vraiment à prier pour la personne? Si on dit, prends courage, est-ce que je vais vraiment être un soutien pour cette personne-là? Et d'autres paroles, des fois, qu'on peut sortir de notre bouche, mais est-ce qu'elles sont vraiment, c'est vraiment quelque chose que l'on pense réellement du plus profond de notre cœur pour que ça fasse du bien à l'autre? Si c'est oui, alors c'est de l'intégrité et de la droiture. Si c'est non, ben c'est du mensonge. Il n'y a pas de milieu. Hein. Soit c'est la vérité, et ça honore le Seigneur, soit c'est du mensonge. Regardez juste sept psaumes auparavant, donc psaume 10, c'est plus simple de dire ça. Psaume 10, verset 7. Comment on peut être hein, si on n'est pas intègre et droit? On va enlever ça, on va dire notre. Notre bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous la langue de la malice et de l'iniquité. Voilà qui est différent de ce qu'on vient de voir par rapport à l'intégrité et à la droiture de ce que David est en train de dire. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. On continue pour toujours cette définition de l'intégrité de la droiture dans le côté pratique de la vie de tous les jours. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Fidèle à la parole de tes lèvres, fidèle à la parole de Dieu. Voilà une application pratique encore de notre intégrité, de notre droiture. Je suis fidèle à la parole de Dieu. Et les autres voient cette fidélité à la parole de Dieu. Fidèle à la parole de Dieu en tout temps et en tout lieu, il y a un témoignage vivant pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. vous êtes observé. Si vous avez affirmé que vous êtes chrétien, vous êtes observé. Si la parole de Dieu, j'ai noté cette phrase, si la parole de Dieu était mon épouse, d'accord? Ou mon époux. Si la parole de Dieu était mon épouse ou mon époux. Combien de fois ce mois-ci lui ai-je été infidèle? Qui a pris sa place? Fidèle à la parole de Dieu. Fidèle à la parole de tes lèvres. Combien de fois j'ai commis un adultère avec la parole de Dieu? L'intégrité et la droiture de ma vie dépendent de ma fidélité à la parole de Dieu. Fidélité dans la méditation, fidélité dans la lecture, fidélité dans l'application de la parole de Dieu. Les deux sont indissociables. Où j'en suis ce matin dans ma fidélité à la parole de Dieu? Ai-je envie de faire des progrès? Ai-je envie de changer? Ou est-ce que je veux rester un adultère à la parole de Dieu? Et si vous n'avez pas une vie fidèle à la parole de Dieu, vous ne pourrez jamais être une personne intègre et droite. Ce n'est pas possible, ça ne va pas ensemble. Et il ne faut pas cultiver ce mensonge de dire « je vais prendre du temps de temps en temps dans la parole de Dieu » et après croire qu'on va pouvoir être un homme intègre ou droit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible, mes amis. Ce n'est pas possible. L'application d'une vie intègre à la parole de Dieu se voit aussi dans la fin du verset 4 et verset 5. Je me tiens en garde contre la voie des violents, la voie de la méchanceté, la voie de l'immoralité. Je paraphrase ce mot de violent, mais on peut mettre autre chose. L'homme intègre au Seigneur est vigilant. C'est pour ça que c'était très intéressant tout à l'heure le passage qu'a lu Jacques sur Deutéronome. Cette vigilance, veiller. Et je pense que l'homme intègre se doit d'être vigilant. Ne se laisse pas séduire par la pensée de ce monde. Sa vie ne veut pas... Sa vie veut rester droite et intègre à Jésus-Christ. Il veut cultiver la vigilance et le discernement. Veillez sur vos âmes. Cette droiture et cette intégrité, c'est un choix. C'est un choix. Ça ne viendra pas tout seul comme ça. C'est un choix. Je décide, je veux être intègre. Je veux être droit au Seigneur. Bien sûr, on verra tout à l'heure dans la fin, dans la conclusion de ce message, que nous avons des outils qui vont nous aider à cela. Mes pieds restent sur le chemin de la vérité. Je reste attaché aux promesses de Dieu, malgré les épreuves et les difficultés. On revient dans Job, toujours pour voir ce côté pratique de l'intégrité et de la droiture du cœur de l'homme, ou d'un homme en tout cas, et en l'occurrence qui est Job ici. Avant qu'arrive tout ce qui arrive à Job, on a vu verset 1, la parole de Dieu dit, c'est un homme droit et intègre. Dieu va affirmer devant l'ennemi, devant Satan, qu'il est un homme droit et intègre. Mais jusqu'ici, c'est facile, aucune épreuve. Maintenant, verset 13 à verset 19, il va arriver, si vous relisez le passage, quatre événements qui peuvent déstabiliser, ou qui même vont sûrement humainement déstabiliser, attrister, et même faire souffrir sûrement Job. Quatre événements, on ne va pas les lire, mais il y a quatre événements qui arrivent. Et si vous voulez relire l'histoire, vous la relirez chez vous. Notamment, la mort de ses enfants. Hein? C'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Hein? D'accord. Il va perdre aussi tous ses biens. Ça, on va dire, c'est secondaire. Et il perd ses enfants. On arrive à ce verset 20, quand ces quatre événements sont arrivés. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rase à la tête, puis se jetant par terre. Donc on voit un homme touché. Hein? Et c'est tout à fait normal. C'est un être humain. Il a des émotions, il a des sentiments, il était touché par ça. Il se mit à hurler et à contester avec Dieu. Non. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. On continue notre histoire. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux et se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Il répète la même phrase qu'on a vu au chapitre 1. mais cette fois-ci avec quatre événements dramatiques qui arrivent à Job. Il dit Dieu, c'est un homme intègre et droit. Il re-associe quelque chose de très important, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Pareil que notre psaume 17. Il reste ferme dans son sentier, Job. Malgré tout ce qui va arriver, malgré l'adversité, malgré les épreuves douloureuses de la vie. David vivait aussi des épreuves douloureuses. Job, pareil, ce sont des hommes constitués comme toi et moi. Ils sont restés intègres, droits. Ils n'ont pas relâché. Et c'est la tentation de relâcher, de baisser les bras. Et là, souvent, la chute, terrible. Non, ce sont des hommes intègres et droits qui ont persévéré, qui ont demeuré fermes dans l'intégrité. Qui ont continué à craindre Dieu et à se détourner du mal. Donc David, on revient à notre psaume 17, David montre dans ces cinq versets l'importance d'une vie intègre avec son Seigneur. Ensuite, à partir du verset 6, et vous allez voir pourquoi c'est important cette intégrité, cette droiture. Là, on a vu un peu cette définition pratique de l'intégrité, qu'est-ce que ça constitue notre vie d'être intègre avec le Seigneur, mais le pourquoi de cette intégrité. Et donc, à partir du verset 6, on voit la prière. On voit vraiment, il s'engage dans la prière là, à ce moment-là, au verset 6. « Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. » Il vient devant le trône de la grâce avec une conscience pure. Mes amis, bien souvent nous venons dans la prière juste pour demander pardon. Nous cultivons des vies de prière basées que sur la repentance. Et je crois que c'est nécessaire de venir devant le Seigneur, de demander pardon lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas en règle avec le Seigneur. Mais il ne faut pas que notre vie de prière s'intitule « repentance continuelle ». On va se priver d'une communion puissante avec notre Dieu. Si la prière est associée que à la repentance tous les jours dans notre vie, mais on ne va pas être si heureux que ça en fin de compte. Et ça veut dire que tous les jours, notre vie n'arrive pas à faire des progrès dans l'intégrité et la droiture. Je t'invoque car tu m'exauces. L'intégrité du cœur de David lui donne une pleine confiance que le Seigneur va l'exaucer. Lorsque ma vie est entachée par le péché, ma communion avec le Seigneur, elle va se limiter qu'à la prière de repentance, de ce que je viens de dire. Du coup, je ne développe pas une vie de prière. Je ne parle pas au Seigneur d'autre chose que de mes péchés. Vous vous rendez compte? Si on cultive une vie de prière que parce qu'il faut parler à Dieu de nos péchés pour lui demander pardon, il y a autre chose dans la prière. Si ma vie est consacrée à Christ et que je suis intègre à la parole de Dieu, alors la prière prend une autre dynamique dans ma vie. Et c'est ce qu'a expérimenté David. C'est pour ça que c'est important de cultiver une vie intègre dans la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de vivre cette droiture de cœur. Pour que lorsque je viens pour me mettre devant le trône de la grâce, je ne sois pas là tout le temps à dire « Seigneur, pardonne-moi pour ça, pardonne-moi pour ça, pardonne-moi pour ça. » Et notre prière est basée que sur ça. Et plus sur un échange. De parler à son Père. De choses qui sont passées dans la journée. De remerciements. De demander des choses. Je crois qu'un cœur intègre et droit va demander des grandes choses à Dieu. Et Dieu va l'exaucer. En son temps, Dieu va l'exaucer. Une vie intègre et droite à la parole de Dieu est possible. Vous avez noté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, David était constitué comme toi et moi. Il avait des imperfections, bien sûr, David. Mais il voulait plaire à son Seigneur. Il voulait grandir dans sa communion avec l'Éternel. Ce temps de prière était important pour lui. Il voulait se présenter comme un homme intègre lorsqu'il s'approchait de son Seigneur. Il savait que la droiture de son cœur était nécessaire pour tenir face à l'adversité. Ai-je ce même désir que David? Ou cela m'importe peu? Vous savez, quelques années plus tard, ce même homme, David, va chuter. On connaît bien cette histoire. Quelques années plus tard, David va perdre son intégrité en quelques minutes. Un homme intègre, droit, va perdre son intégrité en quelques minutes. Tout cela pour vous montrer que l'intégrité et la droiture d'un cœur, pour un enfant de Dieu, n'est pas quelque chose qui est acquis définitivement. Ça, il faut bien le comprendre. Ne croyez surtout pas que vous pouvez être un homme intègre ou une femme intègre ou droite dans le Seigneur aujourd'hui et dire que c'est acquis. Vous pouvez perdre cette intégrité en une fraction de seconde. Et qui peut avoir des conséquences dramatiques. C'était le cas de David. L'intégrité et la droiture de notre cœur ne sont pas des attitudes acquises à vie. Il faut les cultiver et les entretenir, ou j'irais même les retrouver pour certains. Les retrouver. Et c'est possible. C'est possible par la grâce de Dieu. Alors notre intégrité et droiture est possible, eh bien, grâce à, je dirais, à trois choses. J'aime pas trop dire ce mot chose parce que c'est quand même plus grand que juste de simples choses. Eh bien, la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et le dernier, vous savez, c'est quoi? À ma volonté d'obéir. Je veux obéir. Je veux craindre l'Éternel. Je veux m'éloigner du mal. Et notre intégrité et droiture pourra se cultiver et grandir, et se maintenir, si je suis fidèle à la parole de Dieu, si je laisse l'Esprit de Dieu agir en moi, et si j'ai cette volonté d'obéir. Voilà, on va prier. Père Céleste, merci encore de ta grâce, merci encore de ta parole, merci de tout ce que tu peux nous donner aujourd'hui pour justement développer cette intégrité et droiture de cœur. Merci pour l'Église, parce que les frères et sœurs aussi jouent un rôle pour nous reprendre, nous aider à grandir dans cette intégrité et droiture, mais bien sûr ta parole, Seigneur, qui est là au quotidien pour nous montrer ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui a besoin d'être changé pour vivre avec une conscience pure, une conscience qui n'a aucun reproche à se faire. Et merci Seigneur de ta parole qui est là pour vraiment nous transformer. Merci pour ton esprit qui agit puissamment, qui nous montre, qui nous renouvelle. Et Seigneur, donne à chacun de tes enfants ce matin ce désir, cette volonté de vouloir avancer, de vouloir obéir. Seigneur, c'est pas une obéissance forcée, c'est une obéissance tout simplement par amour. Parce qu'on t'aime, alors Seigneur, on veut t'obéir, on veut te plaire, on veut être intègre et droit devant toi. Merci Seigneur de vouloir nous aider. Seigneur, si cette intégrité et droiture, c'est le cas ce matin, comme l'affirme David, il n'y a rien de prétentieux de dire « Oui, ce matin, je suis intègre et droit devant toi, Seigneur. » Alors Seigneur, continue à bénir ces personnes-là, celles qui sont pas dans ce corps-là, alors aide-les à eh bien, retrouver cette intégrité de cœur, à plier bien sûr le genou devant toi et de renouveler cette communion, de développer cette vie de prière, Seigneur, qui est tellement importante. Merci Seigneur de ta grâce, merci de ta parole, merci de tout ce que tu nous accordes au quotidien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.